La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message. Moi, j'ai entendu dire qu'on avait fait une découverte sur l'eau dans l'espace. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Au CNES, celui qui sait, c'est Bernard Zappoli, responsable des sciences de la matière. Allô, Bernard ?
Oui ?
Est-ce que tu peux me rappeler en un mot ce qu'est l'instrument Déclic et quel est son objectif ?
Alors, Déclic est un mini-laboratoire, un laboratoire miniaturisé, optique et mécanique, qui comporte un logement dans lequel on peut venir insérer des modules enfichables ou des inserts, en étant anglo-saxon, qui contiennent des échantillons de fluides ou de matériaux à étudier. Ces échantillons de fluides et de matériaux sont mis sur le trajet des faisceaux laser et des différents diagnostics optiques. Le Déclic possède un énorme avantage qui est de ne ramener au sol que des images en temps réel.
Déclic a fait une découverte ces derniers jours. De quoi s'agit-il ?
Déclic a pu mesurer la température de transition critique de l'eau, c'est-à-dire la température au-delà de laquelle l'eau liquide et l'eau gazeuse ne sont plus discernables. Cette température critique a été mesurée en valeur relative à un millionième. C'est-à-dire que par rapport à la température absolue qui est de 273,16 degrés, on la connaît avec une précision qui est de l'ordre d'une dizaine ou d'une quinzaine de millicas.
Pourquoi ne pas avoir étudié ce phénomène sur Terre ?
On ne peut pas parce que l'eau supercritique est très compressible et il se forme un gradient de densité entre le haut du récipient et le bas du récipient sous l'effet de la très faible pression due au poids du liquide. Il se passe le même phénomène que dans l'air, sur une hauteur de 10 km d'atmosphère. Entre 10 km et le niveau du sol, il y a une augmentation de la densité qui est due au poids de l'atmosphère. Hein. Et il se passe dans l'eau supercritique le même phénomène d'augmentation de densité du haut vers le bas, mais à l'échelle d'un centimètre.
Alors, dernière question. Est-ce qu'on peut espérer, à partir de ces études en micro-pesanteur, en déduire des applications concrètes sur Terre ?
Mais aujourd'hui, la suite du programme, c'est la combustion dans l'eau. Parce que l'eau supercritique constitue un milieu réactionnel où les réactions chimiques s'effectuent de manière extrêmement complète à la température de l'eau supercritique qui est de 373 degrés, 995, puisque c'est la température qu'on a mesurée. Et on peut faire brûler des déchets, notamment des déchets industriels ou organiques, avec de l'oxygène, de manière extrêmement complète à basse température, alors que normalement, ça se fait dans un arc électrique à une température de 1600 degrés. Donc gain d'énergie et gain en termes de complétion de la réaction.
Merci, Bernard Zappoli.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Fenêtre. 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 En contemplant la voûte céleste par une belle nuit sans nuages, on pourrait croire que le ciel est une large baie vitrée grande ouverte sur l'espace. Hélas, il n'en est rien. Impossible d'aller dans l'espace par la grande porte. Il faut passer par la fenêtre. L'intervalle de temps pendant lequel les lanceurs spatiaux peuvent décoller s'appelle en effet une fenêtre de lancement. Et la taille de cette fenêtre dépend de l'endroit où l'on veut aller, mais aussi de la mission que l'on souhaite accomplir. Si c'est la station spatiale internationale qu'on ambitionne de rejoindre, la fenêtre de lancement, dépendant du moment où la station survole le pas de tir dans des conditions idéales, n'est ouverte que 5 minutes par jour. Qu'un orage menace d'éclater à l'orée de ces 5 petites minutes et ces 24 heures de plus qu'il faudra attendre pour retenter sa chance. Pour amener un satellite sur orbite géostationnaire, destination dont la fusée Ariane s'est fait une spécialité, la fenêtre de lancement est ouverte environ une heure par jour. La fenêtre s'ouvre lorsqu'il fait nuit à Kourou, de façon à ce que lorsque les satellites déploient leurs panneaux solaires, de l'autre côté de la Terre, ils soient au soleil et fonctionnent à plein rendement. Enfin, si c'est vers la planète Mars que l'on souhaite se diriger, mieux vaut ne pas rater l'intervalle de quelques semaines pendant lequel la fenêtre est ouverte. Passé cette période, et puisque Mars met deux fois plus de temps que la Terre à tourner autour du Soleil, il faudra attendre 2 ans avant que la fenêtre ne se rouvre. À n'en pas douter, partir pour l'espace en dehors de la fenêtre de lancement, c'est le moyen le plus certain de tomber en rideau.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Vivre sans espace. Lorsque Vulcain éternue, Pégase préfère rester à l'écurie. Nous n'avons pas fini de tirer toutes les leçons des perturbations provoquées en Europe par l'éruption d'un volcan islandais désormais célèbre. Nombreuses sont d'ores et déjà celles qui portent sur la manière dont nos sociétés dépendent aujourd'hui du transport aérien. En Suisse, lit-on dans la presse, les supermarchés Migros ont failli manquer d'asperges américaines, de morue islandaise, de thon importé du Vietnam ou des Philippines. Les horticulteurs kényans, apprend-on ailleurs, ont perdu plus de 2 millions d'euros par jour car ils exportent 82% de leur production de fleurs, de fruits et de légumes vers l'Europe. La municipalité de Francfort s'est inquiétée. Son aéroport, avec ses 71 000 employés, est le premier contribuable de la ville. Etc. etc. Beaucoup d'entre nous découvrent ainsi la part occupée par l'activité aéronautique dans l'économie. Elle semble proportionnelle au processus de banalisation dans laquelle l'aviation se trouve engagée depuis plusieurs décennies. Qu'arriverait-il si une telle catastrophe touchait d'autres moyens de transport, l'automobile, le train ou encore le bateau, et nous ramenait, ne serait-ce que quelques jours durant, au temps du cheval, de la voile ou de la vapeur? Nous savons que cette perspective n'appartient pas au seul domaine de l'imaginaire, de la fiction. Si la disponibilité des ressources énergétiques non renouvelables évolue d'une manière moins brutale qu'une explosion volcanique, est-ce pour autant que notre humanité aborde et gère cette situation avec davantage d'anticipation et de raison? Nous pouvons en douter. D'autres leçons ont déjà été tirées à propos des excès et des défauts du transport aérien. Dans un dossier joliment intitulé « Vivre sans avion », le Courrier international rassemble les critiques que nous connaissons bien à l'égard d'un moyen de transport qui, en réduisant les distances géographiques, oublie que l'âme humaine, à en croire un proverbe arabe, ne voyage jamais qu'à la vitesse du chameau. Là encore, il ne faudrait pas dissocier ces critiques de celles que méritent nos moyens d'information et de communication qui, à leur manière, réduisent eux aussi, avec une incroyable efficacité, les distances entre humains. Mais pour quelle finalité et à quel prix? Il reste encore une leçon à tirer de cette crise, ou plutôt un constat. Le réseau que l'humanité n'a jamais cessé de tisser entre ses membres depuis son apparition, sa diffusion, son expansion à la surface de la Terre, ce réseau n'est plus une simple toile. J'entends une surface à 2 dimensions, selon les longitudes et les latitudes que connaît le plus modeste de nos GPS. Ce réseau possède désormais une 3e dimension, celle de l'altitude. Il la doit à l'avion depuis plus d'un siècle, à la fusée et aux satellites depuis plus de 50 ans. Il ne s'agit pas seulement là de nouvelles capacités, d'un nouveau pouvoir. Il s'agit aussi, comme l'avait joliment écrit Gaston Bachelard, d'une responsabilité nouvelle, celle de la verticalité. Nombreuses en sont les facettes, ainsi celle de transmettre, ou encore celle d'observer et celle de surveiller. Faut-il attendre une autre semaine sans avion, ou une journée sans satellite, pour prendre la mesure de notre dépendance, comme celle de notre responsabilité à l'égard de l'air et de l'espace?
Alors, allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre? C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui. Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.